Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à vous prescrire ses meilleurs conseils. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Et prescrire gratuitement.
En plus,
c'est le
génial.
Le plus important.
On a de la chance, c'est tout pris en charge effectivement sur Europe 1. Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à un sujet médical qui nous fascine, la greffe d'organes. On va parler plus précisément de la greffe de cœur, de foie et de rein cet après-midi. Comment se déroulent ces exploits chirurgicaux? Dans quelle situation a-t-on besoin de remplacer ces organes? Comment ça se passe d'ailleurs quand le donneur est vivant? Ce don de vie est-il sans risque pour ceux qui le réalisent? Alors pour vous expliquer tout cela en détail et avec passion, notre invité ce sera le professeur Gilbert Deray. Il est chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, nous ferons un zoom cet après-midi sur une hormone, l'EPO. Jimmy, vous pouvez le dire vous parce que j'y arrive pas.
Érythropoïétine.
Merci beaucoup, ça sert d'avoir un médecin à côté. Hein. Vous en avez sûrement déjà entendu parler en matière de dopage sportif, mais savez-vous qu'en réalité, elle est aussi produite naturellement par nos reins? Alors, quelle est son utilité? Nous ferons le point. Et puis, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, nous parlerons de tendresse dans un couple.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Lola qui vit à Roubaix. Écoutons-la.
Oui, bonjour docteur, bonjour Mélanie. Je vous appelle pour vous poser une petite question. J'ai des poils incarnés sur les jambes et je n'ai pas les moyens de me faire de l'épilation laser. Alors, je voulais voir ce que vous pouvez me conseiller pour mes pieds. Merci beaucoup, au revoir.
Alors, pour vous répondre, Lola, parce que Jimmy est brillant, mais il a loupé les cours sur les poils incarnés. Donc, on a posé votre question au docteur Laurence Netter, elle est dermatologue à Paris.
Les poils incarnés, ce sont des poils qui ont du mal à passer la barrière cutanée et à sortir. C'est quelque chose qui est excessivement fréquent, surtout dans les zones où on porte des vêtements serrés et qui frottent. La première chose, il faut exfolier sa peau, faire des petits gommages et il faut opter pour une technique de rasage simple, un rasoir à une seule lame, éviter les rasoirs à plusieurs lames qui coupent le poil de trop près, donc le poil se rétracte sous la peau. Si malgré tout ça, eh bien, vous avez des poils incarnés, vous pouvez faire des séances d'épilation laser. Ces séances sont excessivement efficaces. On n'est absolument pas obligé de faire 6 ou 8 séances pour ne plus avoir de poils du tout. La plupart du temps, une ou deux séances modifient la texture du poil et très rapidement, on peut se débarrasser de ces poils incarnés.
C'était donc le docteur Netter au micro de Benjamin Lévesque. Alors Jimmy, à présent, soyez bien à l'écoute. On va prendre une autre question pour vous. C'est Pierre Lot. On l'écoute tout de suite.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Petite question pour avoir votre avis. Ma tante a eu des fourmillements dans une main le week-end dernier. Sur le coup, on ne s'est pas plus posé de questions que cela, mais a posteriori, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Donc est-ce que selon vous, cela pourrait être l'un des signes d'un AVC? Voilà, on s'interroge un petit peu avec la famille. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne émission.
Jimmy, alors des fourmillements, est-ce que ça peut être un signe d'AVC? Pourquoi pas, mais pourquoi peut-être non, hein, dites-nous.
Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un accident vasculaire et cérébral, vous avez une artère qui va soit se boucher à cause d'un petit caillot ou qui va saigner. Une artère du cerveau qui va être responsable du contrôle d'une zone en particulier de votre corps. Ça peut être un bras, une jambe, et c'est souvent la moitié du corps, donc c'est-à-dire la main gauche ou la main droite, mais c'est souvent tout le bras. Donc les fourmis pris de façon isolée, juste de la main. Ce n'est pas forcément un signe d'AVC, normalement ça doit remonter le long du bras, peut-être toucher le visage, avoir une jambe ou un bras qui va être engourdi et ça arrive de façon brutale, alors que quand c'est que la main, on peut suspecter peut-être un nerf qui peut se coincer, comme notamment le syndrome du canal carpien, qui peut donner des petites fourmis qui vont venir et repartir, mais toujours est-il qu'il faut consulter pour s'en assurer.
Alors on va en profiter peut-être pour rappeler rapidement, Jimmy, quels sont les symptômes de l'AVC. Vous avez dit donc des signes de paralysie, par exemple, d'un côté du corps, une hémiplégie, c'est ça hein.
Tout signe neurologique d'apparition brutale, doit vous faire absolument appeler le 15, ne pas aller voir votre médecin généraliste, ne pas vous rendre aux urgences. Ça veut dire que si tout d'un coup, vous avez votre bras qui est un peu endormi, comme si on avait dormi dessus.
Il faut plus attraper la télécommande, par exemple.
Exactement. Mmh. Qu'on a du mal à marcher, une jambe qui devient un peu feignante, notamment chez les personnes âgées qui vont avoir tendance à négliger ce symptôme. Si jamais vous avez des troubles de la parole, c'est bizarre, la personne en face de moi dit n'importe quoi. Le visage asymétrique, des maux de tête qui apparaissent en coup de tonnerre. Tout d'un coup, il est 11h00, j'ai des maux de tête insupportables. Eh bien, à ce moment-là, on appelle le 15 sans plus tarder.
D'accord. Et quoi qu'il en soit, vous le disiez pour l'attente de Pierre Lot, un petit tour chez le généraliste ou le cardiologue, ça ne sera pas de trop non plus.
C'est
le
minimum syndical, ouais. Surtout si vous faites ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire, c'est-à-dire qu'une petite artère.
C'est la fumée du volcan. Hein.
Exactement. Une petite artère s'est bouchée et puis, par chance, ça s'est débouché. Vous n'avez plus de symptômes au bout de quelques minutes.
Donc,
ou
c'est
en
des
moins
signes
d'une
de l'AVC, mais qui ne durent pas. Hein,
exactement.
C'est ça.
Mais vous êtes exposé à un haut risque de récidive d'un vrai AVC dans les semaines qui arrivent, et donc il est impératif de consulter.
Merci beaucoup, Jimmy Mohamed. Alors si vous aussi, comme Pierre Lot, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invité pour le dossier du jour, c'est le professeur Gilbert Deray qui vient nous conter la greffe d'organes, comment ça se déroule, en quoi cela change la vie des patients qui en bénéficient, et on commencera par la plus spectaculaire, peut-être la greffe de cœur. On vous détaille ça dans quelques toutes petites minutes, alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans ce rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour. C'est vous, professeur Gilbert Deray. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chef du service de néphrologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et avec vous aujourd'hui, on va parler de greffe d'organes, un type de chirurgie complètement fascinant pour nous lambda. Alors on va démarrer justement peut-être par la plus spectaculaire, la greffe de cœur. En tout cas, c'est souvent la plus médiatisée, le cœur. C'est une pompe extraordinaire, mais dans certaines situations, elle arrive en bout de course. Ben, lesquelles, finalement ?
Alors, effectivement, c'est la plus spectaculaire parce que le cœur, d'une part, sur le plan symbolique, on le considère comme étant le siège de nos émotions, de l'âme, de la pensée. Et puis, c'est l'organe dont on sait que si on en perd la fonction, immédiatement, on est mort. Le reste nous inquiète moins, en fait, à juste titre, parce qu'il est rare qu'on meure brutalement d'un autre organe. Mais celui-là, oui. On est obligé de remplacer ce qui est considéré, à mauvais escient d'ailleurs, comme seulement une pompe, on va y revenir, lorsqu'en fait, tout simplement, elle ne fonctionne plus suffisamment et qu'elle ne peut plus envoyer suffisamment de sang pour nourrir les autres organes. Le cœur, hein, si vous battez par exemple à 80 par minute, faites le calcul sur 24 heures, c'est extraordinaire le nombre de litres de sang que ça vous envoie partout. Et quand cette fonction de ce muscle, car c'est un muscle, diminue, au lieu d'être à, on appelle ça un pourcentage, 60-70%, elle diminue 30-40-20%, eh bien, il y a un moment où la pompe ne suffit plus pour nourrir votre cœur. Et là, il faut la remplacer.
Bon, l'avantage, c'est qu'on peut la changer quand même, cette pompe.
On se doute que greffer un organe est compliqué, mais est-ce que par rapport aux autres greffes, dont on parlera juste après, est-ce que techniquement, c'est plus difficile de greffer un cœur ?
Alors, avec évidemment l'immense respect que j'ai pour mes amis chirurgiens, c'est une chirurgie qui est, on va dire, complexe, mais parfaitement maîtrisée. Parfaitement maîtrisée, puisque, entre guillemets, il suffit d'enlever le cœur natif, puisqu'on l'enlève quasiment plus souvent, pas tout à fait complètement, mais presque complètement, puis de rebrancher votre cœur sur les vaisseaux importants qui, sur lesquels il était.
Ils sont gros, les
donc,
vaisseaux, quand même.
Les vaisseaux
plus.
Sont gros, c'est-à-dire ouais. L'aorte, les vaisseaux qui vont au poumon, les vaisseaux, puis ensuite veineux, évidemment, qui vont descendre au niveau de cette grande veine qui s'appelle la veine cave. Et donc, c'est une chirurgie qui est très, très bien maîtrisée par les chirurgiens. Et si ça se passe bien, ils vont mettre entre 4 et 6 heures pour faire cette chirurgie. Ça fait maintenant une cinquantaine d'années que la chirurgie cardiaque existe et elle est très très bien maîtrisée.
On peut la faire chez des adultes, chez des... Alors on imagine que vous disiez, c'est quand ce cœur il fonctionne moins bien, c'est souvent, plus... c'est souvent des personnes peut-être un peu âgées, mais un enfant peut avoir aussi besoin d'un cœur. On peut greffer des cœurs chez des enfants.
Oui, malheureusement, vous avez des... Alors dans les causes, hein, le plus souvent, bon, ce sont des adultes, heureusement, que ce ne sont pas des enfants, mais il y a des maladies congénitales qui font qu'on est obligé de transplanter des enfants et là on a un problème de place.
Oui. On peut leur mettre qu'un cœur d'enfant, j'imagine.
Quand on est petit, trop petit d'ailleurs. D'ailleurs, les femmes sont aussi défavorisées hein, de ce point de vue-là. Parce que si vous prenez un cœur d'adulte homme un peu étoffé, il ne pourra pas rentrer dans le thorax d'une femme. Ah oui. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Mélanie, je peux recevoir votre cœur, je ne peux pas vous donner le mien.
Vous auriez de la chance.
Et oui, j'en suis sûr, Mélanie, surtout qu'il est beaucoup plus jeune que le mien. Et donc, oui, les enfants, c'est un problème. Ce qui peut nous amener à faire des transplantations itératives.
Oui. On dit que le cœur a des neurones. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Parce que c'est un concept qui peut être un peu déroutant pour les gens qui nous écoutent.
Absolument. Alors d'abord, on a des expressions depuis la nuit des temps, le cœur brisé, le cœur qui bat la chamade. Est-ce que ce sont juste des expressions ? Est-ce que le cœur ressent des émotions ? La première chose qu'il faut dire, c'est que oui, il y a un réseau neuronal extrêmement important, pas en nombre, il y a environ 40 000 neurones pour des milliards de milliards dans le cerveau et énormément dans l'intestin. Mais il y a un cœur, il y a trois cœurs en fait, hein, celui du tube digestif, celui du cerveau et celui du cœur. Et il est en contact avec le cerveau et il échange des informations avec le cerveau. Donc il est très important. Il va, c'est vrai, en particulier contrôler le rythme cardiaque. Mais ce réseau neuronal, il joue un rôle dans le fonctionnement du cœur. Et je voudrais vous citer la phrase suivante. Le chagrin qui ne parle pas, murmure en secret au cœur surchargé de se rompre. Le chagrin qui ne parle pas murmure en secret au cœur surchargé de se rompre. William Shakespeare, Macbeth, 1605. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que 400 ans plus tard, un monsieur qui s'appelle Taco Tsubo a inventé ou a découvert ce qu'on appelle le cœur brisé. Et le cœur brisé, c'est un vrai cœur qui se brise anatomiquement avec une insuffisance cardiaque lors d'une très grande émotion.
J'allais dire un chagrin d'amour, ça peut suffire.
Eh bien, le cœur brisé a une traduction médicale réelle. Alors, est-ce que c'est lié au réseau neuronal ? Je ne peux pas vous l'affirmer. Mais quand même, ça laisse à penser qu'il se passe autre chose que juste une pompe cardiaque dans ce cœur.
Et justement, j'allais vous dire, quand on se réveille, qu'on a été greffé avec le cœur de quelqu'un d'autre, peut-être plus qu'une autre greffe, ça doit faire quand même un chamboulement psychologique qui est un peu dingue. Il doit y avoir besoin peut-être même d'un suivi, non ?
Alors, c'est un organe qui est vraiment extrêmement symbolique, même si les autres quand même sont importants aussi, et qui fait que le suivi psychologique et l'entretien psychologique avant et après est absolument indispensable. Et oui, il est très souhaitable, mais moi j'aimerais bien vous dire, quand on est greffé en général, mais particulièrement du cœur, de se faire suivre. Certains pensent, comme notre actrice Charlotte Valandré, que le cœur transmet des comportements, des émotions de celui qui l'a donné. J'ai retrouvé une toute petite étude, dommage qu'il n'y en ait pas plus, d'une équipe américaine, qui a été regardé chez 10 donneurs, donc 10 receveurs, ce qui se passait. Et en fait, de façon très étonnante, les 10 receveurs avaient des modifications de leur habitude qui correspondaient aux habitudes de leur donneur. Ils ont interrogé les familles du donneur. Ça serait effectivement intéressant de savoir si le cœur transmet autre chose qu'une pompe.
Une fois qu'il est greffé, ce cœur, on peut le garder combien de temps ? Est-ce qu'on a un délai de survie qu'on peut obtenir correctement ?
Oui, la durée de vie moyenne, c'est 10 ans. Oui. C'est 10 ans. Alors, on dit durée de vie moyenne, donc ça peut être évidemment beaucoup plus. Et on peut retransplanter si vous n'êtes pas trop vieux. Les raisons pour lesquelles on perd le greffon, il y en a majoritairement de deux ordres. La première, c'est comme toujours le rejet. Et donc le muscle s'abîme. Et puis la deuxième, c'est que ce rejet, assez souvent, induit une atteinte des artères coronaires, des artères du cœur. Et à ce moment-là, on se retrouve dans une situation où on a l'équivalent d'un infarctus.
Professeur Doré, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous. Europe 1. Dans ce rendez-vous, nous allons continuer ce décryptage sur la greffe d'organes, un sujet fascinant. Évidemment, on ne peut vous donner qu'un aperçu dans cette émission, mais les équipes françaises de transplantation excellent tout particulièrement. Juste après, on va s'intéresser à la greffe de foie, un peu plus en détail. Vous êtes sur Europe 1, à tout de suite.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est le professeur Gilbert Deray. Vous êtes chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et à présent, professeur, on va passer à la greffe de foie. Pourquoi d'abord, dans quelle indication on peut avoir besoin de remplacer cet organe ?
Alors rappelons que le foie, qui est un organe assez méconnu d'ailleurs, qu'on ignore parce qu'il nous laisse tranquille. C'est un organe extrêmement important, c'est un organe qui est absolument vital. Hein. Il produit, c'est une usine le foie, c'est une usine à la fois de production et c'est une usine de détoxification du sang. Et c'est lui avec le rein qui va enlever tout ce qu'on doit enlever du sang. Mais il produit plein de choses, hein. Il produit de l'albumine, il produit des vitamines, il produit même des facteurs qui permettent la coagulation.
Oui.
Donc si votre foie marche plus du tout, quelle qu'en soit la raison, eh bien vous ne pouvez pas vivre. Alors les raisons, elles sont simples, et, le cancer du foie, alors quand il est petit, s'il est trop gros, on ne peut pas. C'est la première cause de transplantation hépatique, c'est-à-dire qu'on enlève le foie, on enlève le cancer, on espère qu'il ne va pas récidiver, on en met un autre. Évidemment, la deuxième, c'est la cirrhose alcoolique, hein, bien entendu. Mmh. En France, ça reste extrêmement important.
On greffe une fois que la personne ne boit plus, a priori.
Alors, absolument, il faut d'abord qu'elle soit sevrée. La troisième cause, c'est tout ce qui va être hépatite virale. On a gagné pour l'hépatite C, mais il en reste, hein, quand même. Et puis, il y en a une quatrième qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. C'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique, c'est-à-dire le foie gras. Et celui-là, il est en train d'exploser. Et il va devenir la première cause de transplantation.
Je crois que justement, à propos de l'hépatite, vous avez une histoire intéressante à nous raconter, justement, à propos d'un patient qui a été transplanté.
Une patiente, je crois.
Une dame que j'aime beaucoup, qui est encore avec moi. Ça fait 30 ans que je la suis. On a vieilli ensemble. qui a été transplantée après une hépatite virale fulminante, hépatite C. Elle a alors 35 ans, elle est toute jeune, et elle a, heureusement pour elle, elle a un foie disponible, elle est transplantée. Et quand je la vois, il y a longtemps, elle a encore l'hépatite, parce qu'il n'y a pas de médicament. Et que malheureusement, elle est obligée de prendre des antiviraux, mais elle ne les supporte pas. Donc en permanence, elle est en train de prendre des médicaments, qu'elle est obligée d'arrêter, mais ça abîme son foie transplanté, donc elle est inquiète. Et elle est comme ça, en fait, sur une sorte de crête compliquée. Et il y a quelques années, arrivent, enfin, des médicaments efficaces contre l'hépatite C, le sofosbuvir. Et en l'espace de quelques semaines, après 30 ans de lutte acharnée, elle est guérie de l'hépatite C.
Et grâce à cet organe qui l'a permis de patienter.
Exactement.
Aussi, hein, la greffe l'a sauvée finalement.
Et ça fait maintenant 5-6 ans, et elle a un transplant qui marche extrêmement bien. Elle n'a plus l'hépatite C, elle n'a plus de médicaments. Elle est en forme, et évidemment, c'est une histoire médicale qui est absolument exceptionnelle.
Alors, la greffe de foie, après le rein dont on parlera tout à l'heure, c'est l'une des plus fréquentes en France, et donc, c'est un organe qu'on peut greffer à partir d'un donneur en mort encéphalique, ça c'est classique, ou même vivant. Et dans ce cas, si je ne savais pas, on ne prélève pas le foie en entier.
Alors oui, alors d'abord sur le nombre, hein, c'est entre 1300 et 1500 par an, transplantation hépatique, le cœur c'est plutôt 500, et puis le rein c'est 3500, donc le foie, effectivement, on en fait beaucoup. On ne peut pas enlever le foie complètement, tout simplement, parce que comme il est vital, on va tuer le receveur, le donneur. Et donc, comme on ne veut pas tuer le donneur, on lui en prend qu'un bout. Alors, on n'en fait pas beaucoup. De loin, le plus souvent, très, très majoritairement, on prend un foie
de quelqu'un
qui est décédé, parce que c'est plus efficace, tout simplement.
Et justement, le foie, quand on prend un petit morceau chez le donneur, il va se régénérer. C'est ça, c'est un organe qu'on peut...
magique.
Un peu magique, c'est vrai que j'aime pas le terme, mais c'est vrai, c'est le bon mot. Mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on doit greffer quand une fois qu'il est malade, on peut rien faire, il faut attendre, on peut simplement le greffer. On peut prendre une partie du foie d'un patient qui est vivant et celui-ci va se régénérer.
Alors oui, le problème qu'on va avoir, c'est que la masse n'est pas forcément suffisante sur le long terme. Et cette technique qui peut être utilisée, elle est particulièrement intéressante quand vous avez une atteinte hépatite aiguë. Donc vous pensez qu'elle va guérir. Imaginez que vous ayez une atteinte hépatique, par exemple médicamenteuse, dont je sais que vous allez guérir en quelques semaines. Mais le temps que vous guérissiez, vous allez mourir parce que votre foie ne fonctionne pas.
D'accord.
Je vais vous transplanter un bout de foie qui vous permet de tenir, en fait, une sorte de dialyse du foie. Et ensuite, votre foie, le vôtre, va se régénérer progressivement et vous allez pouvoir ensuite ne plus avoir besoin de ce bout de foie. Donc la masse n'est pas toujours évidente et c'est pour ça d'ailleurs qu'on évite de le faire. On peut aussi prendre un foie d'un donneur décédé, le couper en deux pour avoir deux receveurs. Globalement, on préfère mettre le foie entier pour des raisons de nécessité de masse.
C'est compliqué à greffer un foie ou pas par rapport à un cœur dont on parlait tout à l'heure par exemple?
Alors, même chose, ce sont des chirurgies quand même qui sont sensibles parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hein.
Ouais.
Vous devez enlever le foie natif, donc il y a en général deux équipes, vous avez quelques heures pour le faire. Un cœur, on aime bien que ce soit greffé dans les 6 heures, un foie c'est dans les 6 à 8 heures, 6 à 10 heures, donc on n'a pas beaucoup de temps. Hein.
Ouais.
Il faut qu'il soit acheminé, puis ensuite il faut qu'en 4 à 6 heures on vous le transplante. Et donc oui, c'est une grosse chirurgie, hein. Il faut aller, c'est un organe qui est imposant, 15 cm, 300 grammes, qu'il faut aller mettre en place sur les gros vaisseaux. Ils sont très, très, très opérationnels, nos chirurgiens.
Et une fois qu'on est transplanté, hygiène de vie irréprochable, pas d'alcool notamment?
Alors, il y a plusieurs choses. Oui, évidemment, hygiène de vie irréprochable. Alors, pour l'alcool, si quelqu'un avait une cirrhose alcoolique, bien entendu, il ne faut rien boire. Et puis, pour l'hygiène de vie, ça devrait être celle qui s'applique à tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, un patient transplanté, activité physique, régime méditerranéen... devrait systématiquement mis en place et soutien psychologique. N'oublions pas que le patient transplanté, qu'il soit cœur ou foie, a un traitement immunosuppresseur, qu'il met plus à risque d'infection, par exemple, ou d'une tumeur sur la peau, donc pas aller au soleil.
Professeur Doré, on va poursuivre cet échange dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
On revient très vite avec cette émission consacrée à la transplantation d'organes et on va passer à celle de rein. Quand il ne se fonctionne plus, comme il faut, la greffe est le traitement qui donne les meilleurs résultats pour les patients. Comment se déroule une transplantation rénale, souvent réalisée elle aussi à partir de donneurs vivants? On y revient dans quelques toutes petites minutes. À tout de suite.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et il nous accompagne cet après-midi. C'est le professeur Gilbert Deret. Je rappelle que vous êtes chef de service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On parle de greffe avec vous cet après-midi. Et là, on va passer à la greffe rénale, votre spécialité, puisque Absolument. Le rein, c'est votre organe en tant que néphrologue. Alors, c'est la greffe, vous l'avez déjà un petit peu dit tout à l'heure, la plus fréquente en France. D'abord, pourquoi on doit en venir à greffer un rein ou des reins? D'ailleurs, je ne sais pas si on greffe un ou les deux à chaque fois. Quelles sont les indications à la transplantation rénale?
Alors d'abord, même si on n'a pas assez parlé du foie et du cœur,
c'est toujours trop court, Gilbert.
Je dois souligner que le rein, c'est celui qui est ignoré, méprisé, alors qu'il est absolument exceptionnel.
Vous lui avez consacré un livre.
Et je l'aime, ça fait 30 ans, 40 ans que je suis avec lui. Tout simplement parce que le rein peut être agressé. Alors il va être agressé par plusieurs choses. La première, c'est lorsqu'on a un diabète, une hypertension artérielle, ce sont les premières causes. Le diabète, ça va bientôt être la moitié des causes de transplantation rénale. Donc c'est notre mode de vie. C'est la folie de cette société. Puis vous avez évidemment plein d'autres choses, des maladies génétiques, des maladies de type immunologique, vous savez, ces fameuses maladies auto-immunes comme le lupus, qui vont soit brutalement, soit progressivement abîmer votre rein, qui ne va plus assurer sa fonction, ou ses fonctions, car n'oublions pas que le rein, ça n'est pas qu'un filtre du sang, même s'il fait ça magnifiquement. C'est aussi un organe qui fabrique des choses extraordinaires comme l'érythropoïétine, justement, qui fait les globules rouges.
Oui, bien sûr.
C'est lui qui contrôle la pression artérielle. Et c'est aussi lui qui active la vitamine D. Donc c'est un organe complexe, magnifique, qu'il faut
vous aimez beaucoup.
Sauvegarder.
On le sent.
Et d'après l'Agence de biomédecine, le nombre de greffes a diminué de 25% en 2020 en raison de la crise du Covid. Et les greffes du rein ont aussi été concernées par cette baisse, notamment d'activité. Comment est-ce qu'on l'explique?
Alors effectivement, malheureusement, on a baissé l'activité. Ceci pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'on a fermé nos activités. Mars, avril, mai. Alors le cœur et le foie, bien sûr, n'ont pas fermé, sinon les gens vont mourir. Mais nous, en fait, on a la dialyse. Et donc on a
considéré... Parce que c'est vous qui avez baissé le plus, 29% de greffes en moins pour les reins.
On a considéré qu'on pouvait différer. Et à l'époque, on a différé parce qu'on avait peur que nos patients attrapent la Covid alors qu'ils étaient fragilisés par la chirurgie et l'immunosuppression. Puis la deuxième raison, c'est qu'on a moins de reins. On a moins de reins disponibles. Rappelez-vous que pour
moins
transplanter... Il y a deux éléments. Il y a moins d'accidents, mais il y a surtout une autre chose. C'est que quand vous avez toutes les réanimations et les chirurgiens qui sont obligés de s'occuper de la Covid, ils ne peuvent pas être disponibles pour faire des prélèvements, tout simplement. Donc on essaye de rattraper, mais c'est compliqué et ça veut dire qu'il y a des gens qui vont rester plus longtemps bien en liste d'attente, ce qui bien sûr est un problème.
La greffe rénale, elle peut, comme le foie, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, être faite à partir d'un donneur vivant. Ça représente quelle part des greffes rénales? Je crois qu'il y a des pays qui font mieux que nous, parce que c'est la meilleure option, je crois, de prendre un donneur vivant.
Alors oui, on aimerait bien, nous on ne fait que 10-12%. Et vous avez des pays comme la Norvège, c'est 40-50%. Donc on n'en fait vraiment pas beaucoup. Or, c'est à peu près en ce moment la seule façon d'augmenter le nombre de transplantations. On en fait à peu près 3500, alors qu'on a 15 000 personnes qui sont en liste d'attente. Et on rappellera, et c'est très important, que lorsqu'on prélève une personne, cette personne peut vivre normalement avec son rein, parce que bien entendu, on a vérifié qu'elle était en bonne santé. Donc on ne la met jamais en danger.
Oui, ça veut dire que même par rapport à la population en général, une personne qui va donner son rein, elle a le même espérance de vie, le même niveau de santé?
Absolument. Oui, et une nouvelle fois, ce qui est très important, c'est que ce prélèvement n'est fait qu'après un bilan extrêmement minutieux, un bilan de santé mais très complet, qui nous permet de vérifier que cette personne n'a strictement aucun problème. Le moindre problème médical devient une contre-indication médicale, Donc on ne met pas les donneurs en danger, jamais.
Et vous allez même plus loin, vous dites que les gens qui donnent un rein, ce sont des gens très particuliers, des gens exceptionnels.
Oui, je trouve. Et alors évidemment, là ça dépasse le simple cadre du médecin. Je suis très sensible à la résilience, à l'empathie. Et lorsque vous acceptez de faire un don de vous, même si on vous dit que vous n'êtes pas en danger, c'est quand même un geste qui est très particulier. Ça signifie que ces personnes ont une empathie qui est absolument exceptionnelle. Et cette capacité d'empathie envers l'autre, je trouve qu'il faut absolument la saluer. Oui.
Pourquoi est-ce qu'on veut absolument greffer les gens? On a la dialyse, ça marche, on n'a pas de traitement de suppléance du foie. Pour le cœur, c'est simplement transitoire. On pourrait se dire, les gens peuvent rester encore longtemps, mais la qualité de vie, elle n'est pas terrible. Et est-ce que même l'espérance de vie est moins bonne sous dialyse que lorsqu'on est greffé.
C'est exactement ça. C'est-à-dire, vous avez deux éléments qui sont extrêmement importants. Vous allongez la durée de vie, d'une part, et en plus, vous améliorez considérablement la qualité de vie, parce que n'oubliez pas que le rein, c'est celui qui vous donne la liberté métabolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais je suis en train de boire un verre d'eau, là. Pourquoi? Parce que mon rein va l'éliminer. Votre café, ce que vous mangez en trop... Quand on est en dialyse, on n'a plus d'urine. On ne fait plus pipi quand on est en dialyse. Ouais. C'est spécial, c'est bizarre. Et donc, on est obligé de restreindre ses boissons, par exemple, tout compris, un litre par jour, c'est pas beaucoup, je peux vous dire. Et la séance de dialyse, elle est aussi belle qu'elle soit, c'est pas parfait, trois fois quatre heures de dialyse, c'est 7 heures de fonction, c'est 7% de fonction rénale, c'est tout.
Et donc, ouais, ça ne remplace pas du tout.
On se sent beaucoup mieux avec une transplantation rénale. Et en plus, on vit plus longtemps, donc évidemment, c'est beaucoup mieux.
On est un peu dans les coulisses avec vous, on va terminer par ça. Ce qui est étonnant, c'est que le rein, qu'on va mettre à la place du rein malade, on ne le met pas du tout à la place, enfin pas forcément, en tout cas à la place de l'ancien rein.
Absolument.
Et on n'enlève pas d'ailleurs celui qui est malade.
Non, toujours. On laisse les deux qui sont malades, ou celui qui est malade, et on le met devant, vous savez, là, à droite en bas, la fosse iliaque, là où il y a l'appendicite, là, quand il y a l'appendicite, donc à droite ou à gauche. Pourquoi? D'abord parce que c'est beaucoup plus facile à mettre en place, ça marche aussi bien. Ce serait une chirurgie plus compliquée d'aller enlever les reins pour le mettre et ça ne sert à rien. Les reins qui ne marchent plus, ils ne nous gênent pas. Donc on le met là. Et en plus, un dernier avantage, c'est qu'on le sent sous la main.
Ah oui.
Et donc pour l'examiner, c'est pratique.
Pour le surveiller, pour vous, c'est plus simple.
S'il est douloureux. Donc on le met devant et on le porte devant toute sa vie.
Merci beaucoup, professeur Doré, de nous avoir accompagnés cet après-midi pour cet éclairage passionnant sur la transplantation. Vous restez un peu avec nous car vous allez nous apporter aussi vos lumières pour la chronique qui va suivre.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien avec un zoom sur une hormone, le PO. Vous en avez sûrement déjà entendu parler en matière de dopage sportif, mais savez-vous qu'en réalité, elle est aussi produite naturellement par nos reins? Alors, quelle est son utilité? On en parle dans quelques minutes. À tout de suite.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. Il est temps à présent de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, focus sur l'EPO. Savez-vous ce qu'est cette substance, en dehors d'être utilisée comme substance pour le dopage? C'est une hormone que nous sécrétons naturellement. Mais à quoi sert-elle? Benjamin Lévesque vous a interrogé sur ce sujet. On écoute tout de suite ce que ça donne.
L'EPO.
EPS, ça me parle. EPO, ça ne me parle pas du tout.
Le PO, ça doit être un sigle, ça veut dire quelque chose, mais je sais pas. Écologie, environnement, une organisation vers l'environnement.
C'est un dopant.
C'est de la drogue que les sportifs prennent pour avoir des performances meilleures.
Qui se prend, je pense, par injection.
J'imagine que ça doit stimuler le rythme cardiaque, peut-être. Ou au contraire, le calmer pour avoir de meilleures performances et ne pas être essoufflé.
Oui, je pense qu'il y a des risques avec l'OPO, oui, bien sûr.
Je pense qu'il y a des risques cardiovasculaires. Hein. Ouais, tachycardie, moi ça me fait penser tout de suite à du cardiaque.
Alors, on va reprendre les choses à la base. D'abord, quand on parle d'EPO, érythropoïétine, cette fois-ci j'y arrive, on parle en fait d'une hormone qui est naturellement fabriquée par nos reins. Alors Jimmy, vous êtes avec nous, mais on en profite, on a un néphrologue sur le plateau aujourd'hui, professeur Gilbert Deray. Vous avez entendu ce micro-trottoir, pour les gens, c'est une drogue, c'est tout. Mais non, on en produit naturellement de l'EPO, c'est quoi?
Eh oui, c'est une hormone qui est fabriquée par les reins. Et dès qu'en fait on manque de globules rouges ou on manque d'oxygène, par exemple si vous montez au sommet d'une montagne à 4000... mètres, ben vous allez produire de l'EPO parce que, je vous rappelle que les globules rouges permettent de transporter l'oxygène. Donc l'EPO, c'est absolument exceptionnel. En fait, certains sportifs l'ont dérouté, on va dire, pour un mauvais usage. Mais n'oubliez pas que quand, par exemple, vous avez des reins qui ne marchent pas et que vous manquez d'érythropoïétine, vous n'avez plus de globules rouges, vous avez une anémie. Et l'EPO qui a été fabriqué en 1985, c'est une révolution thérapeutique. Il y a eu avant et après. Avant, il fallait les transfuser. Maintenant, on leur donne cette petite piqûre mensuelle.
Et alors, vous disiez tout à l'heure, en préparant justement cette émission, que vous avez connu l'avant, l'après. L'avant, justement, vous disiez, c'était des transfusions tout le temps, des patients qui avaient même des pathologies neurologiques, en fait, des intoxications.
C'était terrible. Vous aviez des patients qui ne fabriquaient plus assez d'érythropoïétine, donc il fallait les transfuser toutes les 2 à 4 semaines. D'abord, ils étaient épuisés tout le temps, c'était invivable. Et en plus, dans le sang qu'on leur transfusait à l'époque, il y avait des choses comme l'aluminium, et ils avaient des encéphalopathies à l'aluminium. Et ça fait partie de ces révolutions thérapeutiques, j'en ai pas connu beaucoup, mais quelques-unes. Et tout d'un coup, avec une piqûre sous-cutanée indolore, nous avons arrêté les transfusions. Et il faut s'imaginer la révolution thérapeutique que ça a été. Et pour les patients, c'est un confort extraordinaire. Je ne transfuse plus mes patients insuffisants rénaux, sauf cas très rares. Donc on s'en sert aussi en cancérologie, on s'en sert dans plein d'autres. Je voudrais dire par exemple qu'avant une chirurgie qui risque de vous faire saigner, on vous donne de l'EPO et on vous prélève du sang.
Oui.
Comme ça, on peut vous retransfuser votre sang pendant la chirurgie.
Et pourquoi ? Pour quelle utilité ça a été détourné ? Pour tricher ? Pour doper ? Ils cherchaient quoi les sportifs avec cette drogue ?
Si vous augmentez votre nombre de globules rouges, vous augmentez votre quantité d'oxygène disponible et vous augmentez vos performances, tout simplement.
Mais c'est pas sans risque,
mais
hein,
attention,
je crois.
Ouais. Exactement. Vous augmentez votre risque de faire un accident vasculaire. Parce que si vous augmentez trop votre nombre de globules rouges dans vos vaisseaux, ils vont se mettre tous ensemble et faire un petit caillot. Et vous allez faire un accident vasculaire dans le cœur ou dans le cerveau.
En même temps, tous les cyclistes tombent pas. Enfin, tous qui se dopent. Alors, heureusement, ils ne se dopent pas tous.
Surtout, ne le faites pas. Surtout, ne le faites jamais.
On ne voit pas tous les sportifs non plus qui ont ce genre d'effets néfastes. Mais c'est le risque, c'est ça.
Maintenant, je pense que c'est moins parce qu'on a appris à le dépister.
Donc, ils les utilisent moins,
donc
c'est simplement
ils utilisent
ça.
Moins, ils font d'autres choses.
Très bien.
Mais sur le plan médical, c'est exceptionnel. Exceptionnel.
Merci beaucoup, Gilbert, pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été à nos côtés cet après-midi et à bientôt.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. Vous êtes sur Europe 1, restez bien avec nous.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints tout de suite par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on a une question de Samantha que je vais vous lire tout de suite. Mon copain n'est pas tendre avec moi. Au début, ça ne me dérangeait pas, mais au bout de 6 mois, j'ai cruellement besoin d'affection. Dois-je me séparer ou il va changer ? Point d'interrogation, bien sûr. Alors Catherine, quand Samantha nous parle d'un manque de tendresse, d'affection, ça veut dire quoi ? Je pense qu'elle manque de câlins peut-être, enfin c'est ce qu'on imagine, c'est les papouilles par exemple qu'on peut se faire quand on est amoureux devant un petit film, c'est ça, non ?
C'est être touché en fait,
tendre,
hein, parce que nous sommes des mammifères, on a grandi en
étant... Parce qu'il n'y a pas de sexe, hein, on est d'accord, hein,
Bien sûr, mais on a grandi en étant caressé dans le ventre maternel, on continue à l'être quand on est pris dans les bras, changé, dorloté, avec plus ou moins d'attention de la part des parents, et naturellement, dans nos liens d'affection, nous cherchons le contact physique comme tous les mammifères. Alors, dans un premier temps, on peut être patient, et puis on peut ne plus pouvoir supporter cette patience. Si on n'a pas été brusqué dans son corps, on est naturellement attiré par le fait d'être touché, et ne pas être touché nous laisse à penser que on n'est pas accueilli, qu'on n'est pas entendu dans son besoin viscéral.
Et est-ce que cette demande de tendresse, elle est propre aux femmes, ou on a l'impression que les hommes sont un peu hermétiques, ou est-ce qu'ils ont
mais
exactement
non, les hommes,
les mêmes
les
besoins,
papouilles
mais
aussi.
Ne le disent pas
mon
exactement.
Fils, il me dit « Maman, caresse-moi les cheveux » tout le temps, comme ça, il aime bien que je le gratouille.
Le fils auprès de sa mère, effectivement, là, c'est encore autre chose.
C'est un garçon, pourtant.
C'est ça, justement, c'est qu'il y a une sorte de... C'est assez curieux que les garçons, on les ait privés de la liberté de pouvoir dire ce besoin, et ils vont jusqu'à parfois nier leurs propres besoins, qui du coup... centralise terriblement sur ce pénis qui doit être touché, retouché, retouché. Mais évidemment que les garçons, comme les filles, ont ce besoin d'être caressés, d'être papouillés, d'être considérés dans leur corps. C'est absolument indispensable pour eux, autant que pour les femmes, bien entendu.
Et c'est parce que c'est un homme, vous pensez que le copain de Samantha, refuse, enfin ne lui donne pas tout ça ? Parce que vous disiez, tous les êtres humains, on a été caressés dès le ventre de notre maman... Tous les êtres humains en ont besoin. Pourquoi lui, il se refuse à montrer ça ? Ou est-ce qu'il a été, je sais pas, on peut imaginer qu'il y a un traumatisme derrière. Pourquoi
alors,
il montre pas ?
Ça peut être,
il pense que c'est un aveu de faiblesse, je ne sais pas.
Ça peut être effectivement ou une vie d'enfant qui a été brusquée là-dedans ou interdit. Ça, c'est pour les bébés. Et donc, être grand, ce n'est plus être là-dedans. Ou c'est une difficulté à le donner parce qu'on n'a pas vu son papa être chaleureux physiquement. Alors, une maman l'est, mais pas un papa. Et devenir un homme, c'est être comme un papa dans une sorte de prise de distance. Il y a beaucoup d'hommes, par exemple, qui ne s'embrassent pas dans la même famille, qui ne se serrent pas les mains. Alors aujourd'hui, avec le Covid, on se demande.
Bon, personne, de
voilà.
toute façon.
Mais c'est pour dire que, effectivement, ça peut être une sorte de traumatisme dans la construction, au même titre qu'un bébé, vous le mettez sur de la musique, naturellement, il danse, à moins que vous disiez arrête de faire ta chochotte ou la danse est pour les filles. Du coup, le petit garçon s'interdit jusqu'à croire réellement.
N'hésitez pas à danser, faites-vous papouiller, ça vous fera du bien aussi.
Ça vous sera
non, quand même.
Oui, mais si je danse, à mon avis, ça va être une catastrophe.
Mais on peut tenter quand même l'aventure et on réalisera que finalement, on est toujours dans une voie de progrès plutôt que d'avoir écrit définitivement la non-victoire.
Quand on part du néant, c'est facile de progresser. Mais là, dans l'interrogation, est-ce que c'est pas injuste de sa part ? Initialement, elle savait qu'il n'était pas tendre. Et 6 mois après, en quelque sorte, elle se réveille et réclame de la tendresse. Or, c'est peut-être son mode de fonctionnement. Il aurait fallu peut-être mettre les choses au clair dès le départ et ne pas attendre que les mois passent avant d'exiger une contrepartie différente.
Bien sûr. Alors après, vous,
bien, bah, Jimmy, il aime bien les contrats. Hein.
Voilà.
Pour que ce soit clair dès le début, là.
Peut-être que votre génération, Jimmy, fait des contrats dès qu'il rencontre qui que ce soit.
Jimmy, c'est direct. Tu t'affiches tes conditions.
Alors, voilà, moi, je suis comme ça. Je suis pas comme ça. Je pense que tout le monde dans la relation amoureuse peut, au nom de l'amour, au nom de la relation, ouvrir le champ de ses propres possibles. Donc, je pense que cette femme a évidemment, Samantha, évidemment, l'idée que ça pourrait venir, qu'il va se débrider, qu'il va se permettre et ouvrir le champ de ces possibilités-là. Et évidemment qu'elle peut se poser, on peut se poser la question, pourquoi est-elle aussi patiente plutôt que de dire « Allez, papouille-moi, caresse-moi, oh, t'es chiant, allez, vas-y, etc. »
Pourquoi elle ne le caline pas, tout simplement? Vous faites souvent des comparaisons avec la nourriture, hein, justement. La faim vient en mangeant, bah, qu'elle le caresse et puis il la caressera, quoi, non? Enfin, je sais pas.
Non, mais vous avez raison. Parce
moi, j'aime bien les trucs simples. Hein.
Non, mais vous avez raison, Mélanie, parce qu'on ne peut pas exiger des autres ce qu'on ne donne pas soi-même.
Bah, voilà.
Donc, je crois que le truc, c'est aussi de lui montrer combien c'est bon en le touchant. Alors peut-être que lui, ça lui donne de l'urticaire, mais au moins il s'exprimera. Et si effectivement on ne peut pas toucher un homme qui ne vous touche pas en retour, je pense que la messe est dite. Mais sinon, on peut aussi s'interroger, pourquoi je revendique quelque chose et je dis souffrir cruellement de quelque chose dans lequel je me suis, comme le dit très justement Jimmy, engagée. Et peut-être que je suis dans la répétition d'une autre histoire personnelle et que je mets sur le compte d'un homme ce qui de toute façon était déjà une histoire vécue avec d'autres, à savoir mes parents.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Je tiens à préciser, Stéphane, Mélanie, vous commencez à la connaître. La rumeur qui circule sur elle est fausse. Ce n'est pas un homme. Hein. C'est vraiment, c'est une femme. Hein,
non, c'est vrai que c'est le thème du jour. C'est des gens qui ont été victimes de folles rumeurs. Georges Pompidou, par exemple, on a pensé qu'il faisait partie de sa femme surtout, avec l'affaire Markovitch. Et puis Henry Ford, on a cru qu'il se présenterait à la présence des États-Unis, pas du tout.
Non,
et
du
chez
tout.
Là, on a raconté
et
des choses.
Avec Mélanie Gomez, on a prétendu que c'était un homme à une époque.
Et vous me confirmez, c'est
aussi faux que pour Mélanie, il est complètement faux.
J'ai un appel, Mathieu, c'est mon mari. Non, vous inquiétez pas, il veut pas vous casser la gueule, mais il veut vous
c'est
parler.
Pour rire, hein.
Oui, oui.
C'est pour rire, comme on
m'a dit. D'abord, il nous écoute.
Voilà, bien sûr, il va rester, il va vous écouter. Et puis nous aussi, c'est ce qu'on va faire, rester sur Europe 1.